Well, we're almost ready to start. The first session of the afternoon. When we're going to be talking about theorising post-coloniality in cultural and literary studies, broadly speaking, so I don't know what our panellists are actually going to say. For those of you who weren't here for the morning session, we did discuss history basically in that session, but this afternoon we're going to be talking about post-colonial theory and I suppose what it is, how did it come about, what insights it's contributed, what are its flaws, which there are many, and whether this sort of post-colonial framework analysis can still provide a useful set of concepts for the understanding of the modern world, or is it time to move on? We've got three panellists in the first session, and we're going to start with Walid at the end there. Walid is in film studies, a specialist of film studies, but also an active filmmaker himself, and he has published, I've forgotten the name of it now, article on
Basically, it's a sort of an article on Algerian cinema in the Journal of African Cinema.
And has also contributed to a book published by the University of Liverpool, edited by Patrick Crowley, which has come out quite recently. Perhaps even more interestingly, he's just completed filming of a documentary in Algeria. Walid?
Thank you. So my paper today is titled Algerian Cinema, The Double Distortion. So increasingly, cinema is used in both UK and the US as both a teaching tool and an academic source to illustrate Algerian society. So these films are used to talk about Algerians who are ready to risk their life to migrate to Europe, used to discuss terrorism, the Black Decade, problems facing women in a patriarchal society, issues such as sexuality, identity crisis, etc. So just to explain a little bit the theoretical framework I'm using here. Current Algerian film production falls into the category of what Randall Halley calls the quasi-national, in offering tales they want to hear transnational European film funding as neo-orientalism. What does this mean, the quasi-national? So the quasi-national is something that looks like a non-European national production, but is in fact attached to European monies. What Halley argues, and what I would argue, is basically the dependency on European funding shapes the thematic concern and aesthetic approaches of these films. So filmmakers are pushed towards what is seen as commercially viable. So, in a way, this highlights the pitfalls of using these films as example of national cinema. So this is what I call the first distortion of what is termed today Algerian cinema. The second distortion takes place when these films are in turn summoned to provide insight into contemporary societies. So notably in Anglo-American academia, these films, Algerian films, are often used as an illustrative example of the apparent complexities and paradoxes of Algerian identity. So just a brief overview on sort of the Algerian cinema industry. So in 1962, Algeria had around 400 cinema screens. By the late 2000s, and according to official figures, there are about 90 cinema screens. So you can see here that the structural problem of Algerian cinema is not the film production in itself, is a structural problem. There are no cinema screens, there's no distribution circuit. And the figure of 90 screens is, I have problems with that. Having spent last year in Algeria, I could tell you that the correct figure is way, way, way below. So we're talking about perhaps 10 screens, actually. which is frightening in a way. So this structural decline in the number of cinema screens was very much accentuated during the 1990s with the arrival of the Islamic Salvation Front into power in many town halls, not to say not most of them. This political party is fundamentally opposed to any kind of visual representation, killed off what was already a dying cinematographic industry. So if you're familiar with Algerian history, you would probably be aware that in the 60s and the 70s, Algerian cinema played a central part in the nation-building process designed by the single party at the time, National Liberation Front. Cinema was a tool in the consolidation of the founding myths, one sole hero, the people, and therefore cinema was heavily funded. But by the 90s, all of that funding dried up. So to add to that problems, many filmmakers were forced to flee the homeland, to France, as a result of threats from Islamic fundamentalists. So what that means is that in order to acquire funding and make a living, these directors needed to get new source of funding in Europe, and in particular from French funding bodies, CNC. So if you look at the funding of all recent Algerian films, the majority are produced by French companies. This is particularly significant because of the conditions attached to the funding. So one of the biggest grants offered by the CNC, National Cinematographic Center, Avant sur recette, contains a language clause that stipulates that 50% at least of the film needs to be in the French language. So this has a direct impact on shaping the content, but to maintain some sort of credibility, filmmakers use these kind of strategies. So basically one of them is they seek to develop characters which would have some likelihood of being Francophone, obviously with the use of pinches of Arabic and Berber, just to provide couleur locale. So to give you a very brief example, sorry, we haven't got time, I would have loved to show you a clip, but probably. So to give an example from Mirzaq Alwesh 2009 film, Havagat, the main characters of the film trying to migrate to Europe are not the usual profile of the unemployed or the marginalised, but relatively privileged middle-class Francophones. So you see where I'm going. So this is very problematic. So the lack of the use of local languages or their misuse doesn't just discredit the characters and irritates the viewers like me. but to a certain extent, and that would be something I would like maybe to ask Charles Bonne later on, it goes against, to paraphrase John Christian Saneke, the basics of l'éthique de la représentation langagière, which is, if I could, the ethics of language representation in cinema. So basically, it removes the substance of characters, disconnecting them from their environment, which, in fact, they're meant to be the product of. So there's some sort of alienation going on there. So. But fundamentally, this is not seen to matter at all, because these films are not seeking to be credible to Algerian audiences, but instead they're aimed at specific audience, the festival circuit, an art house in a well-established European distribution network. So the most popular themes are often women's oppressions, emancipation, tension between tradition and modernity, youth in employment, etc., etc. So of course, these are also the preoccupation of the Algerians, but the way in which these issues are represented is completely disconnected from the lived reality. So the aim of this paper today is not to present the Algerian state as a helpless victim, you know, being in a country with a flourishing hydrocarbon industry and a significant sovereign wealth, only spending 0.5% on your annual budget on culture is a political choice. So this is what I call the first distortion. So basically what I mean is the idea that these films are presented as Algerian, but are in fact French production targeting European audiences. The second distortion, takes place when these films are used by academics, both in classrooms and journal articles, and used to explain the Algerian society either to their reader or to their students. And I must highlight here, with little attention paid to the aesthetic value of these films. So that's perhaps something we could discuss later. How do we theorise? How do we analyse films? Is it mainly through analysing the aesthetic approach and the form, or is it the content? So I would be very happy to listen to your comments and questions later on. So these films are almost exclusively analysed through the same frames of reference, cultural studies, post-colonial studies. So inevitably these films are used as illustrative examples of trauma, unhealed wounds, hybridity, identity crisis, or variants on these themes. So in a way, they become a produit d'illustration audiovisuelle. So they're not a film. So it's like the art form's been sucked out of them. They just become a product. So they become a pretext to speak about contemporary Algeria without analysing the mechanism of production. And indeed, we talked about the power relations. So in this case, it's the power relation inherent within this mechanism. Who's the funder? Who's behind? Who commissioned the film? And I think Fabienne said something about the point of view. Whose point of view? So this inevitably privileges the creation of certain types of film, which are in many ways alienated from the realities which they claim to represent. So this is the second distortion. The subject matter is distorted by the film, and then in the analysis, the theme is repackaged, very nicely I must admit, and given back to Algerians who watch it, and they're told, this is you. So just to conclude briefly, my argument is not in favour of rediscovering an Algerian authenticity, which does not exist anyway, but to challenge a packaging and reception of a narrow range of films which brand themselves as authentic or indeed subversive. French funding controls Algerian film with the complicity of Algerian cultural bodies, and finally, not using local languages alienates actors from their characters and characters from the themes. Thank you.
Merci, Wally. Alors, nous passons tout de suite à Charles Bonne, qui est grand spécialiste de la littérature maghrébine et qui a été professeur à l'Université Paris 13, puis à Lyon. Mais en même temps, je dois mentionner le rôle qu'il a joué en développant une coordination et un travail de collaboration entre collègues et chercheurs dans ce domaine de la littérature maghrébine. Et il reste toujours, on peut consulter la base de données LIMAG, qui est d'une grande utilité pour ceux qui font des recherches dans ce domaine. Alors, publications nombreuses. La dernière, je crois, c'est... Celui-ci, c'est la lecture nouvelle du roman algérien. Alors, Charles.
Bon, je voudrais juste préciser que le programme LIMAG que j'ai mis en place pendant 25 ans, j'ai dû l'abandonner parce que je ne pouvais plus faire tout seul. Mais il est toujours consultable sur Internet. Et donc, l'adresse Internet, c'est www.limag. LIMAG, c'est littérature maghrébine. .com, donc limag.com, c'est facile. Voilà. Alors, nous parlons ici du postcolonial, et lorsque le postcolonial l'applique à la littérature, on pense forcément tout de suite à le livre fondateur, The Empire Writes Back, de Ashcroft, Griffiths, Tiffin, qui date de 89 et qui est, disons, la dimension littéraire, quoi. Moi, je me sens, de ce point de vue-là, j'ai utilisé, bien entendu, j'ai travaillé dans ce domaine, je n'ai pas approfondi la dimension théorique, comme beaucoup de gens dans cette salle l'ont fait. Et donc je me place plutôt du point de vue du postcolonial comme champ d'étude, plus que comme une véritable théorisation, même si parfois, et je vais en parler entre autres ici, je fais référence à la théorie, mais de façon un peu fantaisiste, un peu vue de loin. Alors je voudrais montrer que mon intervention sera en deux points. J'essaie de faire d'abord le point, et ça prend la suite de ce qui a été dit ce matin en grande partie, le statut assez curieux et assez réticent de la théorie postcoloniale en France. Et puis, dans un deuxième temps, je vais essayer d'être plus personnel et de montrer comment moi je me situe, je dirais, comme je viens de le dire déjà, beaucoup plus dans le champ lui-même, à travers mes dernières recherches et entre autres celles qui sont présentées dans ce livre. Et ce ne sera pas rigoureusement dans le cadre d'une théorie. De toute façon, il n'y a pas une théorie postcoloniale, les approches sont extrêmement diverses, et c'est cette diversité qui me semble quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, donc en France, il y a une grande réticence. Ce n'est un secret pour personne. Réticence qu'on voit déjà au niveau des publications. Le livre qui, en France, a fait connaître la théorie postcoloniale, c'est celui de Jean-Marc Mouras, publié en 1989, alors que celui de Ashcroft et les autres a été publié en anglais, The Empire Writes Back, a été publié en anglais en 89. Donc dix ans plus tard, c'est déjà un assez grand écart. Et à propos d'une approche, disons, plus dont je me sens plus proche, qui est celle de Baba, eh bien, si le livre de Baba sur les lieux de la culture date de 1994, sa première traduction française date de 2007. Cet écart est encore plus grand et ça montre bien la réticence. Bon. Je vais peut-être donner quelques éléments pour expliquer cette réticence, quelques éléments liés à l'histoire un peu de l'université française. Je dirais que cette réticence vis-à-vis de la théorie postcoloniale va de pair en France avec une très grande réticence vis-à-vis du champ postcolonial. Du champ postcolonial, par champ postcolonial, je signale entre autres tous les textes sur lesquels moi j'ai travaillé, qui sont ceux de la littérature maghrébine francophone, mais c'est également, on parlait de littérature sénégalaise ce matin, c'était un petit peu tout le champ des pays anciennement colonisés et de leur production littéraire, puisque, je me réclame de ma dimension littéraire. J'ai essayé moi-même, et je personnalise un petit peu mon propos, j'ai essayé moi-même pendant 15 ans de mettre un auteur maghrébin au programme de l'agrégation de lettres modernes, qui est en France, c'est une absurdité en soi l'agrégation, mais c'est ce qui consacre les auteurs dans les universités. J'ai fait partie d'une commission qui préparait les programmes de l'agrégation, et pendant 15 ans, j'ai essayé, sans jamais y arriver, de mettre un auteur maghrébin au programme. Bon. Et j'insistais surtout sur Kateb Yassine, qui me semble celui qui s'y prêtait le plus. Mais comme par hasard, la situation évolue en France. Et c'est ma génération, qui est depuis longtemps à la retraite maintenant, comme moi, qui a manifesté, moi je ne m'inscrivais pas dans ce refus, mais qui refusait ce champ postcolonial. Maintenant, une autre génération nous a suivis, et j'ai eu la très agréable surprise, il y a maintenant, ça doit faire 6-7 ans, quelque chose comme ça, de voir que Kateb Yassine Nejma était au programme du concours d'entrée à l'école normale supérieure de Lyon, ce qui est un autre lieu de consécration universitaire des programmes. Je ne connais toujours pas le collègue qui a réussi à mettre ce texte au programme. Ce que je sais, c'est qu'il est bien plus jeune que moi, et que, contrairement à moi, il n'a pas été touché par l'histoire de la guerre d'Algérie, et je reviendrai là-dessus, bien entendu, par la suite. Bon. Ce qui fait que il y a actuellement tout un changement par la jeune génération. Jeune génération qui, comme je viens de le dire à l'instant, ben, n'a peut-être pas connu la guerre d'Algérie, comme moi je n'ai pas connu de très près, mais enfin bon, je suis quand même de cette génération-là. Donc il y a, je crois, la génération d'enseignants qui a changé. Il y a aussi, je crois, une actualité politique qui a contribué au fait que bon, ben, les textes commencent à intéresser, ne serait-ce que ce qui s'est passé pendant les années noires, c'est les années 90, c'est les années de la plus grande violence islamiste, pendant laquelle, eh bien, beaucoup d'intellectuels algériens ont quitté l'Algérie, ont réussi, pour certains, à trouver des postes dans les universités françaises, et ont fait connaître un petit peu tous les auteurs sur lesquels nous travaillons. Pourtant, ce développement actuel du champ postcolonial dans l'enseignement littéraire français n'empêche pas un certain nombre de malentendus qui font partie aussi d'une problématique postcoloniale. Je pense en particulier à ce qui s'est passé lors du débat autour de Kamel Daoud ces derniers temps. Kamel Daoud, qui est donc l'écrivain algérien dont on parle le plus actuellement, qui est un très bon écrivain, et Kamel Daoud avait publié un article sur les événements de Cologne. Hein, Cologne, il y avait eu, Cologne en Allemagne, il y avait eu des femmes qui avaient été violées, etc. Et il y avait eu toute une campagne anti-islamique à ce propos. Enfin, ça avait déclenché toutes sortes de choses. Et à ce propos, Kamel Daoud avait écrit un article qui montrait peut-être un problème de la société islamique avec le sexe. Ça a déclenché des torrents de protestations un petit peu partout. Qu'il y ait eu des protestations côté islamique, c'est tout à fait normal. Qu'un certain nombre d'intellectuels français, parmi lesquels de très grands amis à moi, avec qui je me suis disputé à ce propos, condamnent, disons, le fait que Kamel Daoud appelle un chat, et nomme les choses, parce que nous autres, anciens colonisateurs, nous n'avons pas le droit de porter des critiques directement, etc. Ben, disons, je l'ai un petit peu plus mal ressenti. Mais je constate que là encore, eh bien, il y a évolution. Entre l'affaire Daoud, il y a deux, trois ans, et un petit peu plus, je ne me rappelle plus, je suis toujours fâché avec les dates, moi. Leïla Silvani, qui présente au prix Goncourt actuellement une dénonciation extrêmement féroce de l'hypocrisie islamique en matière de sexualité, les réactions ne sont plus du tout les mêmes. Actuellement, ça passe. Et elle risque même d'avoir le Goncourt. Enfin, elle fait partie des Goncourts. Donc, il y a là aussi une évolution qui montre que c'est un champ qui, même si on ne le perçoit pas trop en France, c'est un champ qui évolue quand même et que les débats sont là. Alors, comment expliquer cette réticence en France? J'ai déjà dit que j'ai parlé des deux générations différentes. Hein, je crois que la première explication que j'en donne, c'est la culpabilité coloniale. Je crois que je fais partie d'une génération qui, même si ce n'est pas mon attitude à moi, mais je fais partie d'une génération qui n'aime pas entendre parler de la guerre d'Algérie, de ce qui s'est passé à l'époque, et de la colonisation en général. Et cette culpabilité coloniale produit actuellement, on commence à en parler maintenant, et pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit ce matin, je crois que l'un des premiers à parler de l'impossibilité d'une mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, c'est Benjamin Stora, bien entendu. Et à la suite de Benjamin Stora, il y en a eu beaucoup d'autres, avec tout ce qu'il a fait avec Harbi, entre autres, on en a parlé ce matin. Je signalerai les travaux de quelqu'un que j'ai rencontré tout récemment, que je ne connaissais pas auparavant. C'était une psychanalyste qui exerce à la fois à Paris et à Alger, qui a publié un premier livre qui s'intitule « La parole oubliée » en 2015, qui déjà traite ces problèmes de mémoire impossible, aussi bien de la violence coloniale que de la violence des années noires, etc. Et qui est actuellement en train, elle m'a fait lire le chapitre le plus littéraire de cet essai qu'elle est en train de publier, de faire une approche psychanalytique de ce refoulé colonial qui n'arrive pas à s'exprimer à partir d'un disons d'une suppression. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Finalement, nous sommes dans deux pays également colonisateurs, mais je crois que la colonisation anglaise a beaucoup plus essayé de faire une collaboration avec les élites locales, alors que la colonisation française, c'était le « je supprime tout pour me mettre à la place ». Et du coup, cette suppression violente, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de violence du côté anglais, bien entendu, mais cette suppression violente du côté français crée une espèce de refoulé qui actuellement remonte au jour. Et donc, Karima Lazali l'a analysé d'un point de vue psychanalytique. Je crois qu'il y a un autre aspect qui peut expliquer ça, et c'est plus, disons, plus méthodologique. Je dirais qu'en France, on fonctionne beaucoup plus que vous ici en Angleterre, sur une pensée binaire. Moi, je suis le meilleur, toi, tu es le moins bon. Aussi bien en politique que en religion, qu'en idéologie, etc., on fonctionne toujours, il n'y a jamais de moyen terme. Il n'y a jamais de moyen terme. Et donc, je dirais qu'en France, l'in-between, par exemple, de Baba, est absolument impensable en France. Enfin, dans les milieux littéraires les plus nombreux. Ça se voit, entre autres, dans le livre de Mourat. Mourat, qui est l'introducteur, et qui est un grand ami, c'est grâce à Mourat que j'ai publié ce livre, puisque c'est lui qui dirige la collection, et il n'empêche que nous divergeons très souvent dans des colloques, parce que dans son livre, qui est celui qui a introduit la théorie postcoloniale en France, eh bien, il fonctionne en binaire. Il fonctionne en binaire, c'est-à-dire que l'idée principale, c'est que la production postcoloniale se fait sous la forme d'une scénographie, c'est-à-dire que l'écrivain anciennement colonisé ne peut ou ne pourrait produire qu'en se représentant lui-même à travers son texte devant le regard de l'ancien colonisateur. Et donc c'est une pensée parfaitement binaire, il y a le colonisé, le colonisateur, et pensée qui reprend ce que Ashcroft et les autres reprennent à Memmi, entre autres, à Fanon, et donc une pensée que j'appellerais binaire. En plus, ces scénographies chez Jean-Marc Mourat sont elles-mêmes deux. On fonctionne deux à tous les niveaux. C'est-à-dire que Jean-Marc Mourat développe deux scénographies. Une scénographie anthropologique. Je décris ma société pour la faire exister devant le regard du colon qui lui dédie toute existence. Ou alors la scénographie de la rupture. Ce que pratique en Algérie, pour ceux qui le connaissent, Kateb Yassine par exemple, dès 1956, une rupture formelle qui fait que le colonisateur ne peut plus se reconnaître dans le texte de l'écrivain colonisé. Donc on pourrait multiplier je dirais que cette binarité, on la retrouve en France également au niveau du système politique. Parce qu'en France, quand il y a des élections, et les dernières élections en sont l'illustration la plus parfaite, les dernières élections présidentielles, on ne vote jamais pour quelqu'un ou pour un programme. On vote toujours contre quelqu'un et contre un programme. Et ce qui fait que forcément, ça donne des résultats aussi décevants que ceux que nous connaissons actuellement. Troisième explication que je donnerais, qui est en rapport avec les précédentes, c'est que nous avons en France peut-être une pensée beaucoup plus essentialiste. C'est-à-dire, il y a cohérence. Je prends un exemple, l'exemple de l'essentialisme au niveau de la théorisation de la littérature comparée en France. Moi, je considère la littérature comparée comme un moyen de réfléchir à partir du recul que ça introduit sur une littérature donnée, de réfléchir sur la littérarité, sur le fonctionnement de la littérature, etc. La société de littérature comparée, vis-à-vis de laquelle je me suis souvent, j'ai souvent dressé mes ergots, demande à un comparatiste, tu compares quelle langue avec quelle langue. Alors que, du coup, ça élimine complètement la francophonie, puisque la francophonie, c'est des textes de civilisations différentes, mais qui s'expriment théoriquement tous en français. Du coup, ça n'entre pas dans le champ de la littérature comparée, et les commissions de littérature française diront que ça n'entre pas non plus dans le champ de la littérature française, puisque ce ne sont pas des auteurs français. Et du coup, on tourne en rond. Voilà. Donc, je dirais l'essentialisme, c'est ça, et l'identité, c'est un ensemble. Une langue, une identité, éventuellement une religion, un parti politique, un pays d'origine, et on n'en sort pas. Donc, du coup, on ne parle pas des immigrations, on ne parle pas, enfin, tout ce qui est tangent, on n'en parle pas. Et donc, je dirais que cet essentialisme conduit à ne pas accepter ce que promeut, entre autres, Baba, qui dit que mon identité, je ne peux la trouver que dans le regard que les autres portent sur moi. L'essentialisme, c'est tout le contraire. Ben, on n'accepte pas le regard de l'autre sur nous. Et quatrième point, plus littéraire, cette fois-ci. Je pense qu'une des différences entre l'enseignement littéraire en France et dans pas mal de pays européens où j'ai eu à diriger des thèses, entre autres, ou à participer à des jurys, c'est qu'en France, il y a toujours une méfiance vis-à-vis de la théorie. Quelle que soit la théorie, pas seulement la théorie postcoloniale, hein, les théories, alors même que la French Theory a connu un succès fou aux États-Unis, en Angleterre, un petit peu partout, mais en France, les grands, quelqu'un comme Gilles Deleuze n'a pas pu faire carrière universitaire en France, parce que, bon, ben, on refuse les théoriciens, quoi. Pour privilégier le texte par rapport à la théorie. Alors là, mon attitude sera un petit peu mitigée, hein, parce que personnellement, je revendique malgré tout la littérarité, hein, et le fait que le texte, ce n'est pas seulement un document sur une société, sur un mode de vie, sur un phénomène historique, etc. Disons, mon attitude est assez ambiguë de ce point de vue-là, parce que je vois ce qui se passe ici, dans la journée que nous vivons ensemble. Eh bien, nous sommes des gens de plusieurs disciplines qui se rencontrent. En France, ça serait très difficile. Parce que la pluridisciplinarité, quelque part, est refusée. Par contre, comme je disais à l'instant, la plupart des mémoires ou des thèses sur la littérature maghrébine de langue française que j'ai eu à juger dans des pays européens autres que la France, privilégient la perception du texte comme document social, historique, hein, au détriment peut-être de la dimension purement littéraire du texte, hein, que je privilégie. Alors d'un côté, je critique ce refus de la pluridisciplinarité en France, et en même temps, bon, ben, je dis que il faut reconnaître davantage le texte. Donc j'en arrive à parler de mon attitude personnelle à moi, et je dirais que, bon, ben, en bon français, peut-être, je privilégie la littérarité par rapport à la théorie, mais je ne conçois pas cette littérarité comme indépendante de son environnement, et particulièrement de sa réception. C'est-à-dire que la relation du texte avec son contexte, eh bien, je la vois beaucoup plus dans la relation du texte avec ses lecteurs que dans la relation du texte avec l'objet dont il parle. Hein, c'est-à-dire que traditionnellement, lorsqu'on fait une approche sociologique un petit peu primaire du texte, on examine ce dont parle un texte. Hein. Moi, je me place plutôt du point de vue de la réception, et dans ce sens, je rejoins les scénographies dont je parlais tout à l'heure chez Jean-Marc Morin. C'est-à-dire qu'un texte littéraire, je considère que son but, c'est de séduire son lecteur. Et qui dit séduction, dit bien scénographie, parce que pour séduire, il faut se mettre en scène. Mais une scénographie d'un tout autre ordre que la scénographie binaire dont parle Morin. C'est au contraire une scénographie qui va, comme toute séduction, qui va casser les normes de présentation du monde bien établies. et qui va introduire en quelque sorte le désordre, le complexe, l'ambigu, hein, c'est-à-dire tous ceux qui, dans la littérature, est spécifique à la littérature et ne pourrait pas être dit par autre chose que la littérature. Hein, la littérature est là, finalement, pour nous donner un langage susceptible de dire ce qu'aucun autre langage ne peut arriver à dire. Qui est pour moi donc le non maîtrisable, en quelque sorte, le vertige du complexe, du non maîtrisable ou de l'ambigu, qui est pour moi l'essentiel de la littérarité. Ce qui fait qu'au lieu de partir de la théorie pour convoquer le texte comme illustration de cette théorie, je procède à l'inverse. Je pars du texte et je me demande comment je peux, finalement, pour mieux en saisir la spécificité, arriver malgré tout à une théorisation, mais à une théorisation propre à ce texte, et non pas généralisable et ensuite appliquée à des textes particuliers. Ce qui fait que j'en arrive à développer deux théorisations majeures dont je vais dire le rapport avec la théorie postcoloniale. La première est la notion de tragique. La notion de tragique, je l'emprunte à Jean-Pierre Vernant, que certains connaissent peut-être. Jean-Pierre Vernant est un helléniste, spécialiste donc de la littérature grecque ancienne, qui a beaucoup travaillé sur la tragédie grecque, mais qui a montré que la tragédie grecque est incompréhensible si on ne la met pas en relation avec l'époque historique très précise qu'il a pu naître. Les grands tragiques grecs, ça a duré 30 ans, pas plus. Avant, on ne connaissait pas. Après, Platon, entre autres, se gourre complètement quand il parle de la tragédie. Il ne comprend plus. Il ne comprend plus l'essentiel de la tragédie. C'est-à-dire que c'est lié à la découverte de la démocratie par les Athéniens. Découvrir la démocratie, c'est découvrir, c'est entrer dans un mode de pensée qui était inconcevable 10 ans auparavant. Mais de la même façon, je dirais que la littérature postcoloniale se situe dans un contexte tragique. Pourquoi ? Parce que elle est le lieu où se fait une mutation totale de la pensée, de notre pensée politique du monde. Je dirais que nous ne percevons plus le monde politique qui nous entoure du tout de la même façon dont le percevaient nos parents et grands-parents, pour qui tout était binaire. Il y avait les civilisés, il y avait les sauvages. Bon. Maintenant, c'est du côté de ceux que nos grands-parents appelaient les sauvages que se passe l'essentiel de la politique mondiale. Et nous sommes bien obligés de l'accepter, hein, et d'adapter notre mentalité. C'est-à-dire que nous ne voyons plus la partition du monde entre pays industrialisés et tiers-monde de la même manière que ce que nos grands-parents la voyaient. Et ça oblige à des sacrifices, à des remises en question fondamentales de notre mode de pensée, et donc à des abandons de choses, je pourrais en parler à partir de mon évolution à moi, des abandons de choses auxquelles nous avons cru fortement, et auxquels nous ne pouvons plus croire. C'est-à-dire, c'est cette phase où tout bascule sur le plan de la mentalité collective, et ce basculement entraîne nécessairement une notion de sacrifice. Ce sacrifice, dans la littérature algérienne, je le trouve dans la récurrence d'un thème qui a été très peu développé, et qui est le thème du sacrifice soit du héros principal, soit, et c'est beaucoup plus intéressant, le sacrifice de la mère. Et on trouve ça en particulier, le texte le plus frappant de ce point de vue-là, c'est la dernière page d'un roman de Kateb Yassin, le Polygone étoilé, où Kateb montre que son entrée dans la langue française, donc dans la littérature dont il sera l'un des plus grands écrivains par la suite, hein, se fait au détriment de sa mère, qui un jour, sa mère avec qui il était dans la culture traditionnelle, hein, et qui un jour capitule, et vient avec un papier, un crayon, et demande à son fils de lui apprendre la langue de l'institutrice, l'institutrice qui est forcément la grande rivale dont le fils est amoureux, le truc classique, quoi. Bon, cette institutrice, j'ai eu le plaisir de la rencontrer beaucoup, beaucoup plus tard. On n'avait plus les séductions qu'elle avait à l'époque. Mais, sacrifice de la mère, qui est, me semble-t-il, quelque chose de fondamental et qu'on peut retrouver dans la très grande partie des textes, particulièrement de ceux qui ont eu une importance essentielle dans le développement de l'histoire de cette littérature du tiers-monde. Je ne vais pas entrer dans le détail, citer tous les auteurs auxquels je pense. Je dirais simplement que l'un des textes les plus productifs du point de vue de ce que j'appelle la renaissance du roman algérien dans les années 70, c'est le roman de Rachid Boudjedra qui s'appelle La répudiation, comme par hasard. Forcément, la répudiation, c'est la répudiation de la mère. C'est donc le sacrifice de la mère qui est ce qui permet une renaissance littéraire. Et on développe ça. Bon, ben, ça correspond au sacrifice du héros principal de la tragédie, qui, comme la mère dans les littératures postcoloniales, représente un système de valeurs ancien qui n'a plus cours. Donc, premier point de ma propre approche, c'est cette dimension tragique. Deuxième point, c'est le rapport avec le postmoderne, avec le postmoderne. On sait que les théories postcoloniales est issue grandement d'un certain nombre de théoriciens français, comme par hasard, et je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la recueil en France, d'un certain nombre de théoriciens qui sont les théoriciens postmodernes. Qui sont entre autres les théoriciens postmodernes, et je pense entre autres à Jean-François Lyotard, bien entendu. Moi, j'inverse la relation, hein, puisque c'est à peu près contemporain, et je dis que c'est la perte de la binarité idéologique des années 70 qui va amener à une situation que Jean-François Lyotard décrit dans La condition postmoderne. C'est-à-dire situation qui est la mort des grands discours idéologiques qui opposent le bien et le mal, le noir, le blanc, etc., etc. La perte d'une cohérence donnée, la perte d'une relation avec le réel donnée à travers un texte idéologique qui nous donne obligatoirement à comprendre le réel. Qui nous donne, c'est Roland Barthes qui utilise cette expression, qui nous donne le réel sous sa forme jugée. Le réel dans les textes récents, pas seulement les textes postcoloniaux, les textes également qu'on trouve chez les auteurs européens, dans les librairies actuellement, eh bien le réel arrive directement sans mise en forme idéologique. Et c'était particulièrement le cas dans les années 90, maintenant il y a peut-être des retours en sens inverse, c'est particulièrement le cas dans les années 90, et je dirais que c'est cette espèce de dispersion postmoderne qui amène la fin de l'explication binaire, et peut-être à travers cette fin d'une explication binaire, la fin d'une approche postcoloniale des textes. Chaque écrivain va finalement être perçu non pas tant comme une illustration de tel ou tel discours idéologique reposant sur l'opposition entre le moi et l'autre, le bon et le mauvais, etc., etc., mais en tant que tel, en tant que système à lui tout seul, atomisé en quelque sorte. Et cette atomisation, cette dispersion, je la vois également dans le fait qu'au niveau de l'édition, par exemple, des textes coloniaux, postcoloniaux, dont je parle, eh bien, dans les années, jusqu'à la fin des années 70 et au début des années 80, ces écrivains, je ne parle pas de l'édition nationale dans les pays du Maghreb eux-mêmes, je parle de l'édition en France, qui est quand même encore la plus puissante, eh bien, il y avait 3-4 éditeurs en France. Il y avait Le Seuil, il y avait Plon, il y avait De Noël, et puis on sortait pas beaucoup de ça. Maintenant, tous les éditeurs français publient des auteurs qu'on pourrait qualifier de postcoloniaux. Même Gallimard, qui était le plus traditionnel, etc. Ben, Gallimard, actuellement, sort les meilleurs écrivains maghrébins. Ou presque. Pas tous, mais très souvent les meilleurs sont sortis par Gallimard. Eh bien, je dirais qu'il y a une espèce d'atomisation hein, qui fait que bon, bah, c'est une dispersion postmoderne qui m'invite, pour terminer, je terminerai là-dessus, qui m'invite à peut-être à dire que la théorie postcoloniale correspond fort bien à nos approches des textes dans les années 70, hein, où nous faisions nos approches effectivement dans un contexte idéologique. Les années 70 sont les plus idéologiques dans l'université française. Mais peut-être cette approche idéologique autour des thèmes de la domination, etc., a peut-être moins cours actuellement dans la dispersion postmoderne. Et donc, la théorie postcoloniale qui a fort judicieusement invité les universitaires qui travaillent sur les textes à prendre en compte l'inscription historique des textes sur lesquels ils travaillent, bien pourrait peut-être, selon moi, commencer à réfléchir sur sa propre inscription dans l'histoire et sur sa propre situation dans l'évolution des mentalités collectives. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, nous ne pensons plus de la même manière que le grand-parent. La théorie postcoloniale, par exemple, comme parmi les références les plus fréquentes des théoriciens de la théorie postcoloniale, il y a des auteurs comme Frantz Fanon ou Albert Memmi, qui étaient tout à fait d'avant-garde dans les années 60, hein, mais qui maintenant commencent quand même à faire un petit peu dater. Je me demande si la théorie postcoloniale, quelque part, alors même qu'elle a été d'une très grande utilité, ne fait pas un petit peu dater aussi. Et je vous remercie sur ces positions qui ont l'air de laisser sceptiques beaucoup de monde.
Merci Charles. Alors nous allons passer tout de suite à Deborah. Deborah Kelly, professor at the University of Westminster, is a former colleague of mine. And great specialist in all things literary, and she is now going to speak to us. I'm not sure about what, no, but some sort of very interesting.
Well, it doesn't have a title apart from flipping hell. I have to find something to say because I can't refuse an invitation to go and speak in Margaret's honour. So that's the title. And I will also say that the title of this session originally was The Legacy and Future of Postcolonial Theory in Cultural and Literary Studies. And that's what I focused on, really, legacy. And I'll be referring really to Francophone studies. So it's legacy mainly, and I've divided things into five short sections. This is a very personal take, it will become evident why. So something about personal context, something about the wider professional context of what I think that postcolonial theory and within Francophone studies particularly brought us. The teaching context, the research context, including experiences of doctoral researchers, and some rather limited speculation on the future, because we were asked to do that as well. So what I've done, just a short preamble, is that I've mainly taken the chance to reflect because, in fact, working with Francophone literature and culture, and therefore with the colonial, post-colonial and its theories, coincides with the beginning of my own academic teaching career. So my doctoral thesis is not at all in this area. It's in French literary studies. It's a study of a certain avant-garde poet who had been a painter. It was a very, I won't say conventional thesis, but it was set solidly within French literature and visual studies. However, so the coming to Francophone literature coincides at the beginning of a teaching career, and I think that's important. I will have to embarrass Margaret for a moment, because she was absolutely, undoubtedly, the inspiration and the dynamic behind Francophone studies at the then Polytechnic of Central London's School of Languages, which was already teaching and researching extensively, including publishing a scholarly journal in the field when I joined 25 years ago in 1992. And this is some considerable time before the vast majority of other UK departments of modern languages. PCL was at the forefront of Francophone studies, and that was largely thanks to Margaret. I must also confess that I'm reflecting, rather than talking more about the present and the future, as it is now some time since I've worked seriously in the field. And my most recent publication, I had to look back to see what it was. It was in 2011. It was something actually on Albert Memmi, and it was a Memmi's work taken as a series of life lessons, an idea I stole completely from Sarah Bakewell's wonderful book on Montaigne. But Memmi's philosophy of life lent itself completely to that. So it's a long time since I've worked seriously, so you have to forgive me. Although, bizarrely, I am actually being persuaded to do something on Khatibi, on a forthcoming book that's going to be published for the first one on Khatibi for an Anglophone audience. So we see how far away we are from understanding thinkers like Khatibi in an Anglophone context. And I have to say, I wouldn't have undertaken that if I didn't have the co-authorship of a recent doctoral student to rely on. So all of this to say, I've got some credentials to speak here today, but not current ones. So the personal context, first of all. So I became interested in post-colonial and its critical frameworks and Francophone studies specifically, largely because of this teaching and research environment at PCL, as I've indicated. And I worked in the mid-1990s and into the early 2000s on a number of mainly North African writers. And the obvious issues were that the themes I worked on, like many others at the time, personal and collective independence and the relationship to power, whether to political power, to the power exerted by the literary canon and genre, to the power play and power at play between the centre and margins of cultural production, its dissemination, its circulation and its reception, and of course the much abused and overused term identity. But I think that the issue of identity has not gone away, won't go away, and still hasn't properly been dealt with. Now, all of that to say that those themes, which are somewhat clichéd in post-colonial studies, have become personal intellectual touchstones. And they continue to inflect all of my work and thinking, even when I'm not dealing with the post-colonial. And that's where I think one of the strengths of post-colonial theory lies. It doesn't have to be anything to do with the post-colonial. It's the frameworks of thinking are applicable in many other arenas. It embeds permanently a critique of power relations, even when its objective analysis is not obviously colonial or post-colonial. And I'll say a bit more about that later. Also on a personal note, the post-colonial represented my own personal revolt against the French literary, cultural and critical canon in which I'd been formed as a scholar. It was a way of getting out of that French way of thinking with which I had been imbued. And within that French system, theory, French theory that Charbonne has referred to, and its thinkers were often using a kind of void divorced from their origins. Derrida is the most flagrant example of this. So I would say, therefore, that all for its perceived flaws, which we've been asked to reflect on, and its apparent belonging to a certain time and space, the thinking which post-colonial theory allowed then and still allows, which is a thinking through of literature and of culture, cultural production from another place, literally and metaphorically, whether it's Francophone or post-colonial or not, it's this for me that endures. And I'll give you an example. For at the moment, I'm working on something that seems very, very far removed from post-colonial. In fact, I can't think of anything more Franco-French than French gastronomy. And I'm working on French gastronomy and the history of French restaurants in London, and I'm looking at the effect that that has had on London's culinary landscape and cultural landscape, and obviously with the men and women associated with it. Now, having been through the post-colonial terrain, I can't help but include the place of so-called Francophone culture and the Francophone citizens in this history. Those foods, those restaurants, of those from former French colonies and the forms they take in London, which is different to the forms they take in France. And I don't think that a differently trained cultural historian writing the book that I'm writing would have even considered including them. And there's a further issue there, is that what's very interesting about Francophone citizens in London, they come packaged for British perception with an essence of Frenchness. And that is overlaid on top of the Francophone aspect, which is very, very interesting. They take on the cachet of Frenchness in a way that they can't do anywhere else, which is, so there's something very interesting, and I don't think I would have got to that without the post-colonial. The professional context is that, okay, so there's a personal revolt, if you like, in a certain academic environment, which was not only adopted, I think, by the group of researchers and teachers at PCL at the time, but it was because of the makeup of the student body in that period in the 1990s. And again, I'll say a bit more about that in a moment. So this was very important, and it was very long-lasting, not only for me, but for the department. The changes to the curriculum effected at an institution like PCL, University of Westminster, in the 1990s, are not to be underestimated. Post-colonial studies and Francophone studies provoked a long-lasting change in the identity of modern languages there, in the way that it was conceived, taught, researched, and its effects are still evident today. And at the time, this was not true everywhere, and it was certainly not true for the majority of academics in French studies. I know my own French thesis supervisor in another part of the University of London grounded herself in French theory, without calling it French theory, obviously, and in linguistics and semiotics, was always wary of my new path into North American literature, and she took no interest in this at all. This was someone who had fostered me, mothered me, who is still a dear friend. She refuses that part of my career altogether. I didn't write a book on North African literature. And in fact, it was a whole decade later that one of another later doctoral students of hers wrote a thesis on Asia Jebba, and there was a little tiny chink in the armour. But this wasn't accepted by a French scholar. And let's not forget that the situation of colleagues in France was much worse, being told on the fait par carrière in Francophone studies in France. I'm sure you remember that, Charles. On the fait par carrière, they were told. And I'm sure that, again, many of us witnessed the reception, again, reserved for Jean-Marc Mourat when he first used the term, théorie postcoloniale in French in 1999, not least at a conference in the French Institute in London, where the reception was shocking amongst a set of French and Francophone academics. And there were interventions, and I'd seen that at that time in other conferences, from African academics from countries of the former French Empire, articulating attitudes and discourses imbued with French colonial thinking to a staggering degree. I have had my jaw drop, as I'm sure Margaret has, at the kind of intervention. And in fact, those African academics were the fiercest critics of théorie postcoloniale. Okay. And all apparently with no self-awareness whatsoever. So much for post-colonial independence. In the 1990s, that was not true in intellectual circles. And I think it may be easy, therefore, in the second decade of the 21st century to forget and to underplay the power at play in the term, the post-colonial itself. The new approaches, new objects of study, whether in literature, film, visual arts, etc., and the new ways of thinking that post-colonial theory, however these may currently be referred to, have a crucial legacy and cannot be undone or unthought. Post-colonial thought and theory may have become almost subconscious, a natural reflex for some scholars, but the impact of the changes that it brought about needs to be kept in focus, even though certainly we accept that some of its flaws may be seen to outweigh its contributions. And this leads to the third section about its contribution. Now, I previously mentioned curriculum change in an institution like the former PCL, and this went a lot further than the renewal of the clichéd pale male canon. It had real effects and importance, and it was lived by a student body, many of whom were, at that time, second generation migrant or mixed heritage, notably Italian, Spanish, Portuguese, to say nothing of those coming from North African, Sub-Saharan African and the Middle East. Post-colonialism and its approaches brought a truly inclusive curriculum and teaching environment, and it was not one that paid lip service with a few writers from other places, from the margins, to liven up existing boring French literature, cultural history and politics modules, which I am afraid has been the case in most British universities. They brought on, to spice up a bit, the boring French canon. They had not been embedded properly in the curriculum. Other voices and experience became lived elements of the learning and teaching environment. And at the same time, of course, this allowed a rethinking of French writers, thinkers and intellectuals and their own positions and productions. Camus being the obvious example. Poor old Camus, put in the dock by so many post-colonial critics, re-rescued by some of us, and including North African writers themselves, which has always been a joy to me. Now, in some universities, those effects are still apparent and they endure, and in many others they did not embed. And notably, real curriculum changes did not embed in many Russell Group institutions. And that was a cost to the life of modern languages as a discipline in the UK, and it's still being felt, not least and most damagingly, in the school curricula and in examinations. The Arts and Humanities Research Council has recently invested some £12 million with its Open World Research Initiative into renewing modern languages research, into renewing the teaching of modern languages as a university and school discipline, and into changing broader attitudes to language learning. I would say that one of the reasons for the crisis in modern languages came about because the lessons that were offered about the need for curriculum change and inclusivity is an element of that, and they were not learned. Even in Hispanic studies, which had been very good at using Latin American studies and post-colonial theory to invigorate Spanish. And I'd look to the example of the inspirational work of someone like Doris Sommer as an example of that. Now, I speak as the deputy director of one of those large open world research initiative projects, so I know what I'm talking about. I cannot believe the debates that are still being had. Still trying to do something, and I talk personally here, about modern languages and widening participation after 10 years of also co-directing the London Roots into Languages Consortium. If the Russell Group has had the humility to look at what was happening in some of the other universities in the country, we wouldn't be in the position that we're in now. Okay, on a lighter note, the research context. So for myself, certainly working with post-colonial theory brought about a permanent shift in thinking generally about the obvious things. Centre and periphery, the place of power and how it circulates, perceptions of self and other, cultural hierarchies, forms of cultural production which inform research, etc., etc. And that, of course, all of that is far from the orbit of post-colonial Francophone studies per se. Now, it could be argued that any of those positions could be arrived at via, let's say, feminist thought, postmodernism, dealing as well with power hierarchies, binary oppositions, hybridity, more fluid identities, etc. But of course the post-colonial also brings in other temporal and spatial considerations into play in important ways. One of the areas as well where post-colonial theory has been, and Francophone studies has been very important for French this time, is the way that this invigorated doctoral research. in French studies specifically, and I think in modern languages more widely. Of the dozen doctoral students I've worked with, more than half have worked with post-colonial theory in some way, and specifically with the literature and cultural production of North Africa, Cameroon, Democratic Republic of Congo, including the contemporary London diasporas, and Quebec. And very often using and trialling in many ways types of productive comparative approaches across those regions or with other post-colonial cultures such as British Indian, which post-colonial studies invites and facilitates, and sometimes with unexpected results. As I've alluded to previously, post-colonial studies and theory also make us alert to context and to origins. And again, speaking personally, somewhere I'm very involved in doctoral training and doctoral researcher development across a faculty that covers disciplines from English literature and cultural studies to politics and international relations, sociology, media studies, architecture. And I hear still French theory, often Francophone in origin, in fact, bandied about without any knowledge or insight into the originating contexts, whether temporal, geographical or cultural. The post-colonial promoted alertness, awareness and a different ear, which many researchers, and certainly those who are monolingual, simply do not have. It's quite shocking the way those terms are used. And finally, a few thoughts about the future as we were asked. Is post-colonial studies now in its own post-state? Certainly it's associated necessarily with a specific period of the history of European nation states and its aftermath in Europe and in other countries and cultures brought forcibly into that orbit. Hundreds of thousands of refugees across various parts of Europe and other parts of the world would perhaps say that none of us are post anything, and that the colonial is still being lived. On the other hand, the place of the nation state in the 21st century is unpredictable. Are, as some people have speculated, the voice of leavers in the UK-EU referendum and of the far right across Europe, the last gasps of a concept, the idea of the nation state, that's losing its place in geopolitics? The joint statement issued by the mayors of London and Paris after the referendum was extremely interesting in the light of post-colonial studies, amongst other things. And it stated, and therefore, I quote the statement that was issued by Sadiq Khan and Anne Hidalgo together. It's quite astonishing and I found it very uplifting at the time. I can't believe the two mayors came out with this. I don't know who wrote it for them, but someone wrote it for them and they had the guts to go and publish it. If the 19th century was defined by empires and the 20th century by nation states, the 21st century belongs to cities. Cities are innovating and leading global action in area after area, from supporting economic growth and enterprise to tackling air pollution, moving to clean energy or dealing with the pressures of rapid population growth. It is cities that are leading the charge. In cities, we celebrate our diversity and see our differences as a great source of strength. Our cities are places where everyone, whatever their background, can feel at home. As the mayors of London and Paris, we are today committing to work ever more closely together in order to build far stronger alliances between cities across Europe and around the world. Together we can act as a powerful counterweight to the lethargy of nation states and the influence of industrial lobbies. Together we can and will shape the century ahead. Now, it sounds to me as if they've been listening to theorists in urban studies and ecocities and sustainability research. What would the object of study be for post-colonial studies in a post-nation state world? Or perhaps contemporary cities are already an ultimate post-colonial object. So how will the concept of the post-colonial fare in the scholarly world? Currently on the rise in modern languages research and teaching are notions of transnationalism, and we heard that referred to this morning, long explored in human geography, making appearances now in history, as we heard, Transnationalism and transnational studies have really made huge inroads into modern languages. And I'm thinking, for example, of the large HRC projects in transnational Italian studies and the forthcoming Liverpool University Press series in transnational modern languages, incorporating transnational French, German, Russian, etc. This is going to, I think this finally will, create some curriculum change. All championed within the Research Council's Translating Cultures research stream. Now, the debates concerning what the transnational means reminds me of earlier debates to divine the post-colonial. It's also telling that many of the scholars involved in these transnational studies initiatives are previously, or still are, still have one foot in the post-colonial and Francophone studies camp. They're the same people. And they've moved rather fluidly across to work with the concept of the transnational. And I include myself. I'm not saying that they're in any way morally reprehensible to have done this. I also have jumped on the bandwagon like many other people. If transnationalism broadly refers to the multiple ties and interactions linking people and institutions across the borders of nation states, I'd say that the thinking that lies at the origins of post-colonial theory can continue to facilitate analysis, interpretation, understanding beyond, across, at, within, and without borders as we negotiate not only the material geographies of migration and of transnational goods and services, but also the symbolic and imaginary geographies through which we attempt to make sense of our increasingly transnational world, whatever disciplinary label it's given, paying attention, as post-colonial theory always has done, both to historical patterns of activity and to new forms of human interaction and production. And in fact, nowhere are these forms of production more evident than in literary and other forms of cultural production. Therefore, in cultural and literary studies, and therefore, I'd join Shalom in saying this is the literary object is a thing unto itself and a very special one to which we need to pay attention. Thank you.
Well, I said at the outset that I had no idea what any of you were going to say, and I must say how delighted I am with what you all said, because I think it's provoked it will provoke a lot of debate and a lot of pathways to new thinking on what is the post-colonial and what's its future and so on. Grateful to Walid for laying bare the power relations operating in the Algerian film industry. I'd like to hear more from him in a minute about his own filmmaking efforts in that area. To Charles, particularly for explaining in a very clear way, maybe not without controversy, but how we can understand the French response to post-colonial theory and post-colonial thinking, and to Deborah for reminding us about the incredibly passionate politics of the past in academic life and indeed of the future, I think, and again, very enlightening, and I'm sure will provoke a lot of further thought in many directions. So I'm opening the floor to questions before I ask some specific ones of my own. I'd like to go first. Mohammed, can you say your name for the purpose of the recording?
Mohammed Jack from the University of the West of England, Houston. I've got two questions. One about the interesting presentation that you've made. Listening to you, I think the distortion of the talk about the distortion, but I'm not sure about the motive of those films that I've discovered and I've been watching them. Why I'm saying I'm not sure? Because they are shot in Algeria with the blessing of the government. So the government, most of the time, most of them are with actors, you know, from the, you know, the Algerian actors, etc. And I'm just wondering whether their objective is not the, you know, kind of producing a culture or supporting the culture. I agree with you on that. It's a product, but it's a product which is properly aimed at contributing to international events in order to get some kind of reputation and use the series of film produced by the Algerian TV or imported to bombard the Algerian audience with things that they like doing. That's one thing. The second thing, the cinema, has been killed, but I think, I don't want to, but I think for this problem, I don't think the black decade is to be blamed. It's worse. It's well before that. Actually, it's when the cinemas were privatized and sold to people who had nothing to do with cinema. You know, and that was really the beginning of the end of cinema. And this is probably linked to what Margaret has done in her research about Algeria. You know, the new men culture that Ahmed Talib was initiating from the 60s in order to develop a new culture in Algeria, you know, completely different from what we had before. And that culture was very much kind of driven by the Ba'ath Party, you know, which led to a lot of problems in Algeria.
Do you want me to answer, or do you?
Yes, okay. I think I'll answer. It's very specific
to you. So I'm going to answer your question first, and then if that's all right.
Yeah.
So, briefly, the documentary I was shooting last year in Algeria is a sort of extension of the work I was doing as a researcher. I've sort of reread my conclusion, and it sounded really pessimistic. Basically, filmmakers are locked down in this sort of mechanism, funding mechanism. So part of me was trying to sort of demonstrate to myself, first of all, that there are alternative ways of making film. Documentary does offer you that. It's very cheap to produce compared to fiction film. And also, in a way, I want to maybe explore different alternative representation of Algeria. Algeria is always represented, or often represented, in this sort of cycle, through this cycle of violence, the violence of the colonial war, colonialism, the violence of the War of Independence, and the violence of the 90s of the decade. So using Georges Perec's L'Infraordinaire as a sort of a mentor, in a way, I wanted to depict the banal, L'Infraordinaire. So my documentary is about the banal. So, to answer your question. So, just going back, most of Algerian films that were shot in the 90s, 2000 were in fact shot either Morocco or Tunisia, for the simple reason no insurer would insure a cast, equipment, etc., etc., to go in Algeria. So I know that since the early 2000s there were a few films that were shot in Algiers at various. I didn't get your first question, so if you don't mind, just sort of.
I think you mentioned that the films were kind of, you know, you presented it as a product.
I think in a way I didn't have time sort of to problematize this. Mm-hmm. Obviously, in 10 minutes it was a bit short, but. And this sort of is an extract from an article I published. I'd be happy to send you the copy. What I've tried to do in the second part is try to understand try to think, how could we analyse these films differently? And I've come with two big categories, what I call issue-based films and aesthetically engaged films. So I wouldn't put everything in the same bag. So the films I picked today are probably picked from the first one, the issue-based film. It's one issue, no aesthetic value, and it's like commission. I think I wouldn't even sort of talk about cinema. There's sort of a level of telefilm in a way.
I think what I wanted to say, and that always come back to me, because you said, you know, it's a product, and it's not part of like the capacity, the culture building. And I think I agree with you with that, because I don't think those films are, because the culture building, the government has got it in mind, but it has got it in mind in terms through the different Turkish and Algerian films which are shown on TV.
Absolutely. And I think even if some of these films are sort of seen as subversive, then actually the Algerian government is happy for them to proceed and carry on, because they know ultimately they have absolutely no impact on the Algerian society, because they will not be seen. There's no cinema screens. I'm talking about 10 screens in the whole country. So these films can exist happily, and you know, they'll be screened in film festivals in France, in Europe, and that's it. The only films that sort of really heavily guarded are the films that talks about the Algerian Revolution. And for those, there's a very, very strict process. So for instance, if you want to make a film about the Algerian Revolution, there is a law actually that's been voted in 2011, the Loi relative à l'industrie cinématographique. So your script has to go to the Ministry of Mujahideen, has to be read by a commission, approved, and eventually move forward. So so those films, yeah, are, you know, protected in a way. But the film I'm talking about, absolutely not care.
Can I have a question to Charles, if I may? I was very interested by the concept of approche.
Si vous pouvez essayer de le dire en français, ça sera plus facile pour moi.
C'est très intéressant votre présentation, puisque j'ai beaucoup aimé cette approche fonctionnée en binaire. Est-ce que ce principe, on pourrait l'appliquer au niveau, disons, macro, au niveau national, au niveau des rapports internationaux? Parce que, bon, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais très souvent, il m'arrive, par malheur, de penser à pourquoi l'Algérie se trouve dans des situations très difficiles. Et je me dis, moi, je ne l'ai pas appelé l'approche en binaire, je me suis dit, en comparant l'Algérie à d'autres pays voisins qui ont peut-être accepté le tutorat de certains pays, ils ont eu moins de problèmes que l'Algérie qui, elle, enfin, je dis l'Algérie, le gouvernement, les politiciens, etc., qui, eux, ont voulu affronter ou défier ce tutorat.
Je crois que, déjà, les deux pays voisins, parce que quand vous parlez de pays voisins, bon, c'est le Maroc et la Tunisie, ont été beaucoup moins profondément colonisés que l'Algérie. C'est-à-dire que, à la limite, on pourrait peut-être comparer le protectorat tunisien et marocain à la colonisation anglaise dont je parlais tout à l'heure, beaucoup plus respectueuse des structures traditionnelles des pays colonisés que la colonisation française en Algérie, qui a, on rase tout et on implante une identité française à la place. Et là, forcément, ça introduit le binaire. Mais un binaire qui est complètement faussé, et c'est là justement que les approches psychanalytiques dont je parlais tout à l'heure me semblent intéressantes, parce que ça crée un... Quand on supprime l'autre, on ne peut plus en parler, mais ça revient toujours. Et ça revient avec, entre autres, la guerre de libération, et ça revient aussi... c'est ce qui est intéressant justement ce que Karim Al-Azali est en train d'écrire, c'est elle montre que les responsables actuels ne peuvent pas véritablement assumer leur mémoire parce qu'elle a été gommée et que les cadres du nouveau régime s'assimilent finalement aux responsables de la colonisation en faisant exactement le même travail et en refusant la multiplicité culturelle de l'Algérie. La berbérité et tout un ensemble et surtout la véritable histoire de la guerre. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'illustration. On ne peut parler de la guerre qu'en passant devant un comité d'anciens moudjahidines qui vont forcément empêcher de parler de la réalité telle qu'elle est. Donc c'est ce refus de la mémoire, ce refus du réel qui fait partie de cette binarité. Disons, un discours binaire est un discours qui refuse le réel en tant que réel. Et ce discours binaire est complètement, a été complètement mis en échec par la violence islamiste des années 90. Il a été mis en échec pourquoi ? Parce que cette violence, au début, on pouvait peut-être l'expliquer par, bon, par la théorisation que les islamistes avaient apportée. Mais très vite, et au début d'ailleurs, c'est au début que les intellectuels étaient assassinés. Et puis après ça, c'était n'importe qui et tout le monde. Hein, c'est-à-dire qu'après ça, c'est devenu une violence que, quelles que soient les positions idéologiques qu'on avait, on ne pouvait plus expliquer. D'où c'est la ruine d'une explication idéologique binaire par le bien et le mal, quelle que soit la manière dont les différents discours présentent le bien et le mal. Donc justement, la ruine du binaire, c'est cette victoire du réel. Le réel, c'est la violence qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un réel horrible, on peut dire que c'est horrible. Mais on ne peut pas fournir d'explication idéologique. On ne peut plus fournir d'explication idéologique. Donc c'est la ruine de l'explication. La ruine de l'explication idéologique, c'est aussi le fait que toutes les expériences extrêmes, aussi bien douloureuses que heureuses, je pense par exemple à un discours idéologique ne peut pas expliquer la sexualité. C'est impossible. Du coup, il la supprime. On supprime ce qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, par exemple. Et donc, c'est, là aussi, le binaire c'est la satisfaction, c'est la sécurité d'avoir des schémas tout faits pour expliquer le réel, tout en passant à côté du réel. Et le réel, lorsqu'il arrive, met en échec. Et ça, je crois que c'est une découverte, justement, de la postmodernité. C'est quelque chose qu'on découvre depuis Jean-François Lyotard. Et qui était... Disons, tout le monde sait que la théorie postcoloniale est issue de la théorisation postmoderne, mais finalement est allée dans l'autre sens pour revenir en arrière maintenant, en quelque sorte. Quoi. Bon. C'est très approximatif ce que je dis là. Hein.
Merci. I think we've got time for just one or two more questions before we break.
Yes, but we're going to have a reduced break of only 10-15 minutes anyway. So.
Yeah. Natalia, then Andrew.
Merci les trois interventions. J'avais une question pour vous trois, donc je pose la question en français. C'est simple. Donc c'est une question par rapport à comment on rentre dans le canon. Et est-ce qu'on rentre dans le canon quand on est plus subversif? Parce que c'est intéressant que c'est maintenant quand même Cathy Yassine qui est dans le concours de l'ENS à Lyon, et pas un écrivain algérien ou marocain qui est plus jeune. Et je voulais revenir à... Bon, cette question, ça vient d'une réflexion sur Kamel Daoud. Est-ce que vraiment Kamel Daoud, c'est un intellectuel courageux qui dit des choses que personne d'autre n'ose dire? Parce que pour moi, tout ce qu'il dit sur la sexualité des brigés, des Arabes, des musulmans, c'est un discours qui est très bien connu, qui date du 19e siècle, qui est très répandu, c'est un discours qui a une histoire, qui est une histoire très problématique, qui aussi, c'est quelque chose qu'il a dit dans un contexte très très particulier, où on est dans un contexte de discrimination, d'islamophobie, et en gros, qu'est-ce qu'il a fait, Kamel Daoud? Pour ceux qui étaient contre cet article, il a donné des armes aux racistes pour qu'ils disent tenez, nous, on a raison, regardez, il y a même un arabe qui dit la même chose que nous. Donc, je pense que Kamel Daoud, pourquoi il est célébré en France avec Boualem Sansal, c'est pas par hasard, c'est un peu parce qu'il reproduit un certain discours qui arrange un certain nombre de personnes. Aussi par rapport aux événements de Cologne, je pense que j'ai lu un article bien après qui a démontré que en fait le niveau d'agression
c'était pas pendant du tout ces ce événements
n'était pas plus élevé par rapport à d'autres événements avec une foule de la même taille et la plupart des violences c'était pas des viols, c'était des vols, ce qui change quand même les choses. Donc je pense que cette idée que ces intellectuels nomment les choses, qu'ils ouvrent un débat, qu'ils osent dire des choses, je pense qu'il faut faire un peu attention avec ça. C'est une question que j'aimerais bien poser à vous trois, parce que je sais que ça revient dans le cinéma, on parle souvent d'un cinéma algérien courageux qui parle des choses dont on n'ose pas parler. c'est un peu comme les débats sur l'immigration en Angleterre aussi, hein. On dit des choses, il n'y a personne qui parle de l'immigration parce que c'est tabou, on ne laisse pas parler, on en parle tout le temps. Donc voilà, ça c'est une question pour vous.
Alors, je crois que, on entre un peu dans la polémique, il ne s'agit pas pour moi d'approuver le discours de Kamel Daoud. Particulièrement sur Cologne, il a été excessif, c'est bon. Par contre, je pense que ce n'est pas notre rôle de nous empêcher. Disons que nous n'avons pas à censurer une parole, même si nous ne sommes pas d'accord.
Pas censurer, c'est mettre en évidence, ce qui n'est pas la même chose.
C'est pas parce
que... pas censurer, c'est valoriser.
Mais si on donne la parole à quelqu'un, on le valorise nécessairement.
Mais on donne toujours la parole au même, en gros. Hein,
c'est... Bah oui, mais ma position, c'est de donner la parole à tous. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi... c'est forcément celui qui même dit les choses avec excès et avec des excès qui est tout à fait d'accord que ça prête, que ça peut tout à fait servir à un discours islamophobe, etc. Tout à fait d'accord. Hein. Mais pourquoi faudrait-il l'empêcher de parler? Pourquoi faudrait-il... C'est-à-dire, le problème, c'est pourquoi y a-t-il des questions dont on ne peut pas parler? Que ce soit Kamel Daoud ou quelqu'un d'autre. Il est... je crois que tant qu'on ne peut pas parler de toutes les questions, et particulièrement de la sexualité, hein, eh bien ces questions restent comme quelque chose qui aggrave tous les jours le problème dont on ne parle pas.
D'accord. C'est
juste en fait pour continuer là-dessus, pour peut-être rester plus proche de comment vous avez utilisé l'exemple de l'auteur dont on parle, c'était comme pour démontrer qu'on voit un changement. Et je vois la critique ici pour
absolument,
dire que lui, peut-être cet exemple-là, ce n'est pas un exemple d'un changement où là, dans le monde postcolonial, on donne la parole à quelqu'un avant. Non, parce que c'est plutôt qu'on soit d'accord ou pas. Une position qui confirme le colonial plutôt que le non-colonial, le post-colonial. Et je crois que là quand même, il y a, et c'est peut-être un tout petit truc que je manquais que je me demandais dans quand on fait l'effort de comprendre pourquoi nous en Europe, ou le monde blanc, que ce soit français, belge, anglais et tout, on a différentes façons d'avoir fait la colonisation, mais tous, du moment que ça parle de la façon dont on a colonisé les autres, on est réticent.
Ouais.
Et il y a des versions différentes de tout ça. Mais ce que je vois, c'est souvent quand il s'agit du côté blanc européen, pas comment on veut l'appeler, c'est qu'on peut s'arrêter à des niveaux très individualistes presque. Par exemple, le fait que ce qui doit inspirer, c'est la psychanalyse, qui est quand même très intéressante. Mais dans toute la liste, que ce soit essentialiste, psychanalyste ou the binary thinking, ce qui manque, c'est vraiment la politique dans tout ça. Ouais. Et c'est ça qui est quand même quelque chose pour moi, je trouve ça dans chaque exemple, comme les Anglais, on donne l'impression qu'ici on parle de post-colonial, mais on l'a fait d'une façon qu'on enlève toute politique, et ça devient un truc intéressant pour ajouter dans...
Bien sûr. Voilà. Et on n'évite pas, on ne peut pas éviter la récupération politique. Mais, je crois que tout point dont on ne peut pas parler, c'est le fait qu'il y ait des sujets dont on ne puisse pas parler. Qui ne fait qu'aggraver et qui en fait un problème. Disons qu'à partir du moment où on peut parler de tout, ben, c'est plus un problème. Mais s'il y a des choses dont immédiatement on ne peut pas, immédiatement ça crée une montée de bouclier, à la limite, je disais, lorsque j'en ai parlé, j'ai dit que ça crée, que je conçois très bien que ça crée une montée de bouclier chez les gens qui ne peuvent pas le supporter parce qu'ils sont mis en cause, etc. D'accord. Mais qu'il y ait cette montée de bouclier chez des intellectuels français de gauche, anticolonialistes, comme je suis moi-même, eh ben, il y a quelque part une contradiction. Il y a quelque part une contradiction, et sur le terrain, le non-dit, précisément, c'est la même chose pour la mémoire interdite, le discours sur la guerre d'Algérie qui ne peut pas se dire, le discours... c'est le silence qui crée le problème. Et il ne s'agit pas pour autant de prendre, d'approuver les positions de Kamel Daoud. Mais Kamel Daoud a eu le courage, au moins, de mettre le pied dans le plat.
Mais en fait, je pense qu'en fait, il ne dit pas des choses qu'on ne dit pas. C'est ça mon argument. C'est un faux tabou. On aime bien en France les faux tabous. On ne parle jamais de ça.
C'est un faux tabou. Enfin bon, on ne va pas peut-être non plus monopoliser le débat. C'est un faux tabou si on se place, du point de vue de la société européenne, oui. Parce que ça va être immédiatement récupéré par les discours racistes dans la société européenne, d'accord. Mais moi, je considère qu'il faut prendre ce risque si... de toute façon, il ne s'agit pas de notre discours à nous, hein, il s'agit du discours de Daoud. Et qui, sur place, en Algérie, est insupportable. Et insupportable, pas pour les raisons que vous dites. Insupportable parce qu'on ne peut pas parler de sexualité.
Nous allons sûrement continuer cette conversation plus tard. C'est sûr. Andrew.
Oh, I'm afraid of a bit of an answer. I suppose for Deborah, first of all, I was going to say about the idea of French gastronomy in the post-colonial. When I was looking up kind of new outrages that Robert Ménard had uttered recently, one of his things was talking about a grand remplacement culinaire because of the amount of kebab restaurants all over this year. You know, I think there's a space there for
I
suppose the question more broadly as well was about that kind of curriculum reform we talked about. Does it just have to have, how do you integrate that in a more kind of grassroots level, I suppose, of schools as well? Is it possible to integrate that type of curriculum reform when you still have in schools the kind of was colonialism good or bad kind of debate going on? Is it possible to integrate that one?
The whole thing has to be rethought. Mm. It will never happen. Mm. As I say, the HRC have just given out £12 million to try and do this. I mean, the last curriculum change was absolutely appalling. And why was it appalling? I'm talking about the schools. Mm. Because they gave it to the Russell Group, and the Russell Group said, oh, yes, we'll change the O-level and A-level systems for you. Why did they accept? I mean, in itself, that's unacceptable. There's got to be more of a curriculum that follows through properly from school to university. Mm-hmm. This it doesn't work in modern languages. It's never worked. Well, it would work for a certain kind of middle class elite, but it doesn't work. You know, it's not working. And there's got to be more meaningful work by universities done in school, not parachuting in and going, please come to our university because our recruitment's a bit low. but there's got to be proper working with teachers and in schools. And one way, I'm talking about London largely, I have to say, and I think probably other big cities, you know, you could probably do this in Manchester. But, you know, for example, Why is everything taught in the classroom, for example, when you've got a living laboratory on your doorstep? It's these kind of things that you've got to really start moving a curriculum that has a meaningful life cycle, and that is not what has been done. And I think in modern languages is a discipline where one could do that. I despair. Some inroads can be made in some schools in small populations of students, but the kind of wholesale rethinking, no one has got the guts to do.
Well, on that note, there is a lot to despair about.
No, I know,
we're not going to despair about it. I think we'd better call it to an end there, but there's a lot more to be said, and we will undoubtedly get the chance to say it later on. Thanks to our three contributors.